Carnet de voyage. Une invitation.
Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui pour ce carnet de voyage Alain Castan. Bonjour Alain.
Bonjour.
On va parler d'un grand périple que tu as fait récemment. Donc au départ, ça englobait l'Europe du Sud, avec l'Italie du Nord, avec la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, et puis le retour par l'Italie du Sud.
Exactement.
Donc on va essayer de se focaliser un petit peu sur la Croatie et le Monténégro. Tu as commencé à me parler de carrefour de frontières. C'est vrai que quand on regarde la carte, on voit la Croatie, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo, l'Albanie, tout enclavé. Avec le Monténégro qui, lui, a une face sur la mer, qui a accès à la mer facilement.
Oui, en fait, pour aller de Dubrovnik jusqu'au Monténégro, au lieu de suivre la côte comme la plupart font, on a voulu faire une incursion dans le pays. Et là, en quittant donc Dubrovnik et la Croatie, en moins de 40 kilomètres, on a traversé trois frontières. Donc pour passer d'abord de la Croatie à la Fédération de Bosnie-Herzégovine, puis pour passer de la Fédération de Bosnie-Herzégovine à la République serbe de Bosnie, et enfin pour passer de la République serbe de Bosnie au Monténégro. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est suite aux accords de Dayton de 1995, le noyau central de l'ancienne Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine, a été constitué comme une fédération avec trois entités, enfin en réalité deux entités, une centrale qui est croato-musulmane avec le célèbre Sarajevo, et puis tout autour une république serbe, et puis une toute petite principauté au nord qui jouxte la Serbie. Et ces trois entités sont fédérées au sein de la fédération de Bosnie-Herzégovine. Mais par les temps qui courent, la République serbe de Bosnie-Herzégovine est très sécessionniste,
ouais.
Affidée à la Serbie et à la Russie, un peu anti-européenne. Voilà.
Oui, donc il devait y avoir des conflits
voilà. Et donc,
d'influence très
forts. Ce qui
fort.
Est assez étonnant, c'est que on n'avait traversé aucune frontière pour arriver à Dubrovnik, enfin, les,
ouais.
Pas de poste frontière apparent. Et là, on a traversé trois postes frontières bien marqués avec arrêt, déclaration des passeports, etc.
Mm.
Entre des entités qui font partie de la même fédération, du même pays, mais qui se démarquent bien, quoi.
Et on n'a pas dit que tu voyageais avec un fourgon aménagé. Est-ce que ça change les choses pour les passages de frontières?
Non, pas.
Ils veulent tout fouiller.
Non, même pas.
Voir ce
non,
qu'il
pas
y a
du
dans le frigo.
Non, c'est toutes les voitures qui subissent les mêmes contrôles. C'est assez étonnant, quoi. Et c'est là qu'on voit que l'Europe a certains avantages de ce point de vue-là.
Ouais. Et il n'y a pas de bakchiche à donner.
Non. Ça.
On met pas les passeports dessus avec un billet à l'intérieur.
Non.
Sur la pile.
Pas du tout.
Je pense que le plus beau, c'est le Monténégro.
Oui, le Monténégro est assez sauvage. C'est un pays de montagnes et de mer, et surtout la baie de Kotor dont
ouais.
on a fait le tour, qui est une baie assez extraordinaire dans un ancien canyon. En fait, c'est un relief karstique, enfin calcaire, dans lequel s'est entaillé dans le même sens que le trait de côte un gigantesque canyon qui est relié par une toute petite bouche à l'Adriatique. Et ce canyon, maintenant, c'est une très belle baie entourée de pans de montagne vertigineux qui sont vraiment magnifiques.
Et on peut dire que ce canyon est submergé et que ça ressemble à un fjord.
Voilà, tout à fait. Certains l'appellent fjord. Or, c'est bien démenti qu'il ne s'agit pas d'un fjord,
ouais.
Puisqu'il n'a pas été creusé par les glaciers. Ça a été creusé par une rivière dans un massif calcaire.
Alors évidemment, la baie de Kotor, c'est l'entrée vers la ville de Kotor elle-même.
Voilà, tout à fait. La cité de Kotor, qui est magnifique. C'est un bourg médiéval au pied d'une grande montagne. Et ce bourg existait depuis l'époque romaine. Il a été fondé par notamment Justinien, l'empereur Justinien, des derniers empereurs romains, en 530. Puis a subi les assauts des Sarrasins en 840. Et ensuite les assauts des Mongols en 1240 et enfin a été colonisé par les Vénitiens de 1280 jusqu'à 1790 et ensuite passé à l'Autriche, voire même il y a eu un épisode français juste avant la guerre de 1914-1918, voilà, pour être rattaché à la Fédération de Yougoslavie en 1939-45.
Alors évidemment, les Vénitiens ont fait un petit bijou artistique.
Voilà.
Ils ont fait une cité vénitienne.
Exactement, avec cité vénitienne et puis des fortifications absolument étonnantes. Donc la ville donc a des bâtiments gothiques, romans, vénitiens, enfin des palais, et tout ça enfermé dans une fortification, laquelle fortification monte jusqu'à presque 300 mètres d'altitude. Hein, ça ressemble aux fortifications de Briançon, fortifications édifiées. Enfin, on sent que c'était là, de par ce golfe, on pouvait abriter une marine et, comment dire, surveiller l'Adriatique bien à l'abri. C'était un point très très convoité et qui a été assailli tout le temps, quoi, jusque même en 1945.
Donc il y a un mélange de langues que l'on retrouve, je suppose.
Voilà, tout à fait. Alors c'était une cité qui est catholique jusqu'à peu et puis maintenant orthodoxe et il y a un mélange maintenant très assumé à l'intérieur de la cité.
Alors c'est classé au patrimoine de l'UNESCO, cette
oui,
cité.
Tout à fait, depuis le tremblement de terre de 1979, je crois, ouais, qui avait fait d'énormes dégâts et qui a permis donc de reconstruire cette ville. Et alors c'est un avantage et un inconvénient parce que c'est assailli de paquebots, les gros paquebots de croisière en Méditerranée.
Ah, ils réussissent à rentrer dans la baie.
Et oui, jusqu'au fond du golfe. Ouais, et bon, on peut difficilement faire des photos de la ville sans avoir deux ou trois grands paquebots. Et à l'intérieur de la ville, effectivement, il y a des hordes de touristes. Mais bon, quand on monte les fortifications, les 300 mètres de dénivelé, ça en décourage plus d'un.
Alors, la fameuse cathédrale médiévale de 1166, est-ce qu'elle a eu besoin d'être reconstruite aussi? Elle a été attaquée par le tremblement de terre?
Elle a été refaite et c'est elle qui abrite les reliques de Saint Trifon. Qui ont été achetés par les Cotoriens au Moyen-Âge, au début de la Renaissance. Voilà. Et c'est assez étonnant de voir ce Trifon qu'on connaît bien par Trifon Tournesol, mais dont les reliques sont là-bas.
J'ai noté sur Internet, c'est qu'en polonais, les pavés se disent pierre à chat. Et que normalement, il y a des chats de tous les côtés à Kotor.
Il y a effectivement des pavés en tête de chat qui sont d'ailleurs très très désagréables à la marche, notamment quand on monte tout le long, les 300 mètres de dénivelé à l'intérieur des fortifications. C'est pas bien pratique. Les pauvres gens qui sont en tongs ont bien du mal pour marcher sur ces têtes de chat.
Mais quand tu dis tête de chat, c'est en relief.
Oui, là, c'est des pavés en relief. Des galets.
Alors ça doit être ça.
Ça doit être ça, sans doute.
L'origine des chats de Kotor. Qu'est-ce qui se passe quand on s'éloigne de la ville de Kotor? Est-ce qu'on peut rayonner un petit peu dans les...
Oui, alors avec des amis, on est monté. Il y a une petite route de montagne sinueuse avec 35 lacets.
Que tu as compté.
Voilà, qui monte, qui grimpe jusqu'au sommet. enfin sur un versant très abrupt, et c'est assez impressionnant. Et bon, et en saison touristique, c'est assez étonnant. Alors j'avais la malchance d'avoir un ami devant moi qui avait une voiture de location et qui était breton d'origine, et puis devant un camping-car un peu plus gros que le mien, qui allemand, qui avait pas l'habitude de conduire en montagne, et ça a été épique pour monter, parce que c'est des gens qui, au lieu à chaque épingle de vérifier si le passage est libre, s'engageaient et se retrouvaient nez à nez sur une route qui faisait 3,80 m de large, et avec un versant à 30 ou 35 degrés et sur 800 mètres de dénivelé, ça donnait des effets assez bizarres. Et alors l'effet le plus terrible, ça a été quand dans une épingle, nous avons croisé trois quarts de 54 places qui heureusement se suivaient. Et j'avoue que j'étais assez étonné. On a croisé ça allègrement. Les chauffeurs de car étaient bien, comment dire, entraînés, parce que bon, eux avaient derrière eux une file de 500 mètres. Nous, on avait 200 mètres de file, et donc pour arriver à croiser tout ce monde-là, ça a été assez épique. Mais bon, c'est un bon souvenir. Et puis d'en haut, on a une vue absolument somptueuse sur la baie de Kotor et au-delà sur la mer Adriatique. C'est vraiment magnifique.
On arrive à voir le défilé du canyon jusqu'à la mer Adriatique.
Non, parce qu'on voit pas la bouche de Kotor est perpendiculaire, donc orientée nord-sud, alors que la baie sur 20-25 kilomètres est orientée est-ouest. Et on voit bien la baie, mais on voit pas la bouche. Mais par contre, la bande de terre séparant de la mer Adriatique n'étant que de 8 à 10 kilomètres, on voit l'Adriatique derrière. C'est vraiment magnifique.
On va faire une petite pause musicale avec un morceau des Balkans, un morceau que m'a donné ton épouse Isabelle. Donc a priori c'est un morceau serbe. Le groupe s'appelle Stoja et le morceau Nesto Migovori. Donc j'ai commencé à te faire traduire les paroles. C'est en attente de boyfriend.
D'accord. Donc tout un programme.
On écoute ce morceau et en deuxième partie on parlera de ton trajet en catamaran à partir du Dubrovnik.
Sama, sama ja.
Rebonjour, amis auditeurs. Nous sommes toujours avec Alain Castan et toujours au Monténégro. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'une chose aussi exceptionnelle que la baie de Kotor. C'est la côte adriatique, ce qu'on appelle la Riviera des Russes ou même des Ukrainiens.
Oui, c'est donc la côte adriatique qui est donc au-delà de Kotor, plus au sud-est. Et alors c'est une côte qui était magnifique puisque enfin on a été attiré par la plage de Bečići qui a été classée en 1935 au concours de Paris comme la plus belle plage d'Europe.
Wow.
Bon, on a été assez déçus quand on est arrivé. C'était entouré de buildings de 25 étages avec une vilaine plage de petits galets, oui, quasiment
ouais.
De petits galets.
Ouais.
Et donc, en fait, cette côte-là est une des côtes méditerranéennes les plus proches de Serbie, d'Ukraine et de Russie. Et on a été surpris de croiser beaucoup de voitures ukrainiennes, russes.
Ouais.
Et serbe donc de vacanciers qui c'est malheureusement se castagne le reste de l'année et se retrouve en vacances au même endroit.
Oui, voilà. On peut peut-être tirer une équivalence avec Sotchi pour les Russes. C'est un petit peu le côté balnéaire de les riches oligarques.
Voilà, tout à fait.
Et où est-ce qu'elle mène au bout
Eh ben ça mène jusqu'à l'Albanie, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Oui, l'Albanie.
Mmh, mmh. Et là, si tu voulais passer en Albanie, il y a zéro problème.
On l'avait pas prévu. Il aurait été possible d'aller chercher un ferry. Il y a un port qui fait la frontière entre le Monténégro et l'Albanie et qui permet de rejoindre l'Italie. Mais en fait, on est remonté sur Dubrovnik pour prendre un ferry vers Bari.
Alors justement, ça nous fait la transition pour une semaine de navigation en catamaran que tu as pu faire grâce à tes anciens collègues de l'ONF.
Oui, tout à fait. On a la chance de participer à un club du comité d'entreprise de l'Office national des forêts avec lequel on fait des croisières par groupe d'une quarantaine sur 4 ou 5 bateaux, catamarans en l'occurrence. Et là, donc, ils avaient loué, je sais plus, c'est 5 catamarans à Dubrovnik. Et on a passé une semaine dans les îles au large de Dubrovnik, donc l'île de Miette, l'île de Korčula, et c'est vraiment des paysages méditerranéens magnifiques.
Et ces îles, on peut carrément se promener, descendre du bateau et aller faire une promenade ?
Voilà, tout à fait. Alors, l'île de Miette, c'est un parc national sur la presque entièreté de l'île. L'avantage, qu'il y a la moitié de l'île qui est entièrement piéton. On a randonnée. En plus, il y a une espèce de lagune au milieu de l'île qui est reliée à la mer. Et donc, on peut faire le tour de cette lagune et il y a des paysages absolument sublime avec l'eau turquoise de l'Adriatique, les pins verts et puis les falaises jaunes ou ocre, c'est vraiment vraiment splendide.
Ça a des relents de l'ancienne lagune de Saint-Louis.
Saint-Louis, Sénégal.
Est-ce qu'on y voit des animaux vu que c'est un parc national?
J'ai pas le souvenir d'animaux particuliers. Par contre, beaucoup de poissons. Et d'oiseaux en bordure des côtes.
Alors, je pense qu'on ne parle pas assez de ton assistante, de ton éminence grise, ta femme Isabelle. Donc, en définitive, c'est le chef de la logistique. Elle gère les stocks, elle réserve les hôtels.
Elle programme effectivement les trajets, trouve les campings ou les aires de stationnement de véhicules et confirme quand il y a des réservations à faire, donc 2-3 jours avant d'arriver, pour être sûr d'être à bon port, au bon endroit, au bon moment.
Et vous arrivez toujours à avoir une liaison internet correcte pour pouvoir réserver?
Tout à fait, oui, avec la 4G, quelques spots Wi-Fi dans certains campings, ça marche à peu près.
Et ce fourgon aménagé, en définitive, vous le mettez souvent En sauvage ou
majoritairement dans des petits campings bon marché et rarement enfin en pleine campagne ou souvent quand on a des villes à visiter en ville carrément les fenêtres sont
teintées
voilà c'est ouais. ça et on peut passer une nuit en ville sans que personne s'en aperçoive d'autant plus que le fourgon n'a pas d'apparence de camping-car mais d'un simple fourgon, donc ça ne ouais, okay. pose pas de problème.
Et du coup, vous vous déplacez avec des vélos, par exemple, une fois que le fourgon est casé dans la ville ?
Oui, tout à fait. Oui. On arrive à faire des randonnées à vélo, ici ou là.
Un petit mot sur le retour par l'Italie du Sud. Donc là, tu es passé par Bari, Pompéi, Naples, Rome.
Oui.
Qu'est-ce que j'ai oublié ?
Matera.
Matera, ouais.
Et Colle del Goya aussi.
Ah.
Colle del Goya, qui est une petite ville à l'ouest de Bari, avec un fort et un très impressionnant musée de poterie romaine, qui est assez beau. Et sinon, oui, on a découvert Matera, qui, comme Bourges, l'année prochaine, a été élue il y a quelques années ville européenne de la culture et qui aujourd'hui est très très visitée. C'est une ville, il y a 2-3 vallées qui convergent et tous les flancs sont occupés par des habitations troglodytes et une ville magnifique avec des points de vue superbes. Ensuite, nous avons visité Pompéi, bien sûr, qui est assez remarquable, hein, avec ses 60 hectares. On y a fait 12 kilomètres de déplacement à l'intérieur pour voir toutes les maisons. Et on a été très surpris de la façon dont les maisons romaines étaient décorées. Et à la place des papiers peints, il y avait des peintures murales somptueuses sur pas mal de maisons. Ensuite,
mais ça a été refait, je suppose.
Ça a été. Alors, malheureusement, Pompéi a bénéficié d'une archéologie très ancienne, dès le XVIIe siècle. Et du XVIIe jusqu'au XIXe siècle, la majeure partie des peintures murales ont été enlevées pour être reconstruites dans des palais, les palais des mécènes qui finançaient les recherches à l'époque. Et heureusement, ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour fouiller et il en est resté. Et les fouilles récentes ont été laissées sur place. Mais par contre, les anciennes qui avaient été dispersées dans des palais ont été rassemblées dans un musée qu'on peut visiter à Naples, je crois, et où on voit une multitude de fresques romaines qui sont absolument magnifiques.
Ce qui est un peu couillon, c'est de pas les avoir ramenées à l'emplacement où elles étaient, à Pompéi.
Ouais, c'était
d'avoir poussé le
bouchon. C'était peut-être plus difficile pour les conserver, parce que je crois que sur Pompéi, ils ont d'énormes problèmes. Malgré le très grand nombre de visites, ils ont beaucoup de problèmes pour gérer le site et assurer...
La dégradation du site.
Voilà, éviter la dégradation du site, voilà.
Et comment est-ce qu'on revient d'un tel voyage ? En définitive, il y a tellement de choses que tu as récupérées pendant le voyage, d'émotions, de quantité d'informations. Qu'est-ce que tu en fais ?
Isabelle fait des vidéos. Moi, j'ai la faiblesse de faire mon tri de photos chaque jour et de publier mes 10 meilleures photos chaque jour sur Facebook avec un commentaire, ce qui me permet de retravailler et redécouvrir des choses que j'ai vues mais dont j'avais pas connu la signification complète. Je le trouve le soir et je le publie dès le soir. Et Isabelle, effectivement, rassemble nos 1500, 2000 photos pour faire des petites sessions de 2 ou 3 jours avec l'essentiel de ce qu'on a vu.
Ok. On peut peut-être laisser ton mail pour les gens qui voudraient communiquer avec toi pour voir les photos, les diaporamas. Ton mail, c'est tout simple, c'est alain.castan.
Voilà, @free.fr.
@free.fr. Castan, il n'y a pas de G.
Il n'y a pas de G, non. G, ouais. c'est la forme francisée du sud-ouest de la Dordogne. Moi, c'est la vraie forme espagnole.
Avant, tu as fait un voyage sur l'Europe du Nord.
Oui, oui, mon fils se mariait en Finlande, et donc nous sommes montés en fourgon jusqu'à la Finlande, en passant par l'Europe de l'Est, donc Slovénie, Autriche, alors j'en oublie toujours un, Tchéquie, Pologne, Lettonie, Lituanie, Estonie, Finlande. Et on est redescendu en 3 semaines, 1 mois, en passant par la Suède, la Danemark et l'Allemagne, et en redécouvrant l'Alsace et les Vosges.
Bon, on peut dire que tu as éclusé l'Europe maintenant.
Oh, il en reste encore.
Et l'Europe du Sud, tu as mis combien de temps?
Là, on a mis 1 mois au total, y compris les 10 jours de navigation à Dubrovnik.
Ça va vite quand même.
Oui, oui, tout à fait. Mais l'essentiel.
Merci Alain d'avoir cotoré nos imaginaires, de nous avoir donné envie d'aller sur la baie de Kota. Merci à toi.
Merci.
Carnet de voyage. Une invitation. Ooh, can't anybody see?